Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux et arrive dans le studio Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Donc dans les enjeux, vous revenez aujourd'hui sur la situation en Syrie.
Et oui, alors que les États-Unis se sont lancés dans une tournée d'explications et de réassurance au Moyen-Orient suite aux annonces de retrait de Donald Trump, trois nouveaux fronts se dessinent ou se réactivent ces derniers jours en Syrie. C'est l'incertitude qui augmente sur les forces en présence et peut-être sur leurs intentions. Bonjour Ziad Majed.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, auteur de « Dans la tête de Bachar el-Assad » paru récemment. Alors, les intentions peut-être d'abord américaines à clarifier, ceci alors que Donald Trump a posé depuis quelques jours des conditions au retrait des 2000 soldats américains qui sont toujours, notamment des garanties pour les Kurdes. Est-ce que vous diriez qu'en faisant ces annonces, il passe la main sur le terrain ou qu'il tente au contraire de la reprendre en laissant entendre qu'il pourrait se retirer ?
Je pense que Donald Trump a toujours été imprévisible par rapport à la Syrie. Et après ces déclarations confirmées plus tard par le Pentagone, il y a eu quand même des rectifications et des clarifications concernant le retrait, parlant de plusieurs mois, essayant d'envoyer des messages qui rassurent les milices kurdes et en même temps qui rassurent Israël qui ne souhaite pas voir les Iraniens profiter de ce retrait américain. Et puis, il y a la relation tendue avec la Turquie, et la visite de Bolton hier et avant-hier a confirmé cette tension, oui. Puisque les Turcs considèrent que les Américains ont pendant très longtemps protégé leurs adversaires kurdes. Trump essaye peut-être de s'adresser à son électorat par rapport au retour des forces spéciales américaines au pays, mais en même temps par rapport à la région et par rapport aux relations internationales, il a probablement créé encore plus de tensions, d'inquiétudes, d'hésitations, et plusieurs acteurs régionaux, notamment les acteurs aussi du Golfe, qui craignent les conséquences de ce retrait américain, sont aujourd'hui en quête de réponses, d'où également la visite de Pompeo dans la région et les rencontres qu'il est en train d'organiser avec plusieurs responsables.
C'est ça, cette double visite de John Bolton en Israël et en Turquie, et puis de Mike Pompeo dans les pays du Golfe. Juste un mot sur les forces américaines, on parle de 2000 soldats dans une vingtaine de bases, c'est exact ?
Oui, tout à fait. Ce sont des forces spéciales qui ont, depuis 2014, commencé à s'impliquer directement dans la guerre contre Daesh. Au début, il y avait le soutien aérien des milices kurdes, mais à fur et à mesure que ces milices-là reprenaient du terrain contre les djihadistes de Daesh, les forces spéciales américaines se déployaient dans la région, à la fois pour le soutien logistique, pour entraîner les milices kurdes et pour guider l'aviation et les raids aériens. Oui. Donc leur présence est dans le nord-est, surtout, et dans une partie de l'est de la Syrie.
Et alors, justement, c'est pas des forces très nombreuses, mais quand même utiles. Là, ce qu'on remarque ces derniers jours sur le terrain, c'est la montée en puissance des combats à Idlib, les forces kurdes autour de Manbij qui sont prêtes à demander le soutien de Damas ou de Paris, et puis l'État islamique qui tente une contre-offensive autour de Deir ez-Zor. Est-ce que, il y a quand même une accélération des opérations militaires un peu partout. Est-ce qu'il faut y voir un effet plus ou moins direct de ces annonces de Donald Trump ?
Il y a certainement un effet par rapport à Manbij. Il y a aussi un effet par rapport à la région de Deir ez-Zor et certaines attaques de Daesh, mais qui restent quand même dispersées sur le territoire et sans valeur militaire réelle. Par contre, la région à Idlib est une région est une question alarmante puisque le front al-Nusra reconverti en Hayat Tahrir al-Sham est en train de contrôler de plus en plus du terrain contre les factions de l'opposition syrienne. Et donc on voit que il y a de nouveaux enjeux sur un territoire extrêmement fragmenté, avec une démographie également très fragmentée. Et la Syrie aujourd'hui, entre les zones contrôlées par le régime, l'est du pays contrôlé par les milices kurdes, qui sont en train de négocier avec Damas une possible coopération face aux Turcs, les Turcs qui contrôle une partie du territoire également dans le nord et qui souhaite élargir cette zone-là vers les zones que vont quitter les Américains. Puis il y a ce qui reste de l'opposition qui est à la fois à Idlib et dans une petite poche désertique du côté de la frontière jordano-irakienne où il y a également une petite base américaine. Et les Iraniens et les Russes qui sont les forces d'occupation principales et qui ont permis au régime de se maintenir sur une grande partie du territoire. On voit des dynamiques dans chaque zone qui évoluent avec parfois des combats, parfois des changements d'alliance. Donc c'est une phase aussi en série d'attente avant de voir comment toutes les alliances et tous les enjeux régionaux vont se projeter sur la situation syrienne.
Attente ou accélération, notamment dans la province d'Idlib, hein, vous en parliez. Là, hier, l'OSDH a annoncé que le groupe Hayat Tahrir al-Sham, donc celui qui est censé être parrainé par la Turquie, a fait une offensive assez importante ces derniers jours et qu'il a gagné 15% de territoire. Il contrôlerait les trois quarts de la province d'Idlib. Il aurait même, affirme-t-il, dans un communiqué, conclu des accords avec d'autres groupes rebelles dont l'un se serait dissous. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les intentions de ce groupe?
Oui, alors Hayat Tahrir al-Sham n'est pas directement sponsorisé par la Turquie. Il y a eu même des tensions entre les deux. Par contre, Hayat Tahrir al-Sham, avec une complicité turque, disons, avait formé il y a pas très longtemps un gouvernement appelé le gouvernement du salut national dans la région de Idlib pour essayer de montrer que Hayat Tahrir al-Sham prend des distances avec son passé, c'est-à-dire Nusra, la proximité avec Al-Qaïda. Ils sont en train de contrôler de plus en plus de villages et d'axes routiers dans la région de Idlib, et cela posera plusieurs problèmes parce que ils sont d'un côté qualifiés comme une organisation terroriste par les Nations Unies, ce qui pourrait justifier aux Russes une certaine attaque contre leur base ou leur position. En même temps, la Turquie, qui est l'acteur principal dans cette région, répète depuis des mois et des mois que toute attaque contre la région pourrait créer de nouvelles crises de réfugiés, puisqu'il y a 3,5 millions de Syriens qui vivent dans la région de Idlib.
Oui, c'est ce qu'avait dit
le président. Une réunion bientôt entre Russes, Iraniens et Turcs qui va évoquer toute la question de cette région. Et puis il y avait dans l'accord de Souchi une clause reliée à l'ouverture d'axes routiers entre le littoral syrien et la ville d'Alep. Donc est-ce que le contrôle de Hayat Tahrir al-Sham de cette zone va permettre à cette clause d'être respectée? Est-ce que les Turcs aujourd'hui veulent une recomposition du paysage militaire, disons, dans la zone de Idlib pour plus tard négocier le prix qu'il pourrait avoir avec les Russes et les Iraniens si jamais un règlement aura lieu. Donc il y a un enjeu important qui se joue là-bas, mais je pense qu'il est un peu trop tôt encore pour savoir les fins ou comment cela va être négocié politiquement, mais militairement parlant, Hayat Tahrir al-Sham est en train de gagner face aux autres groupes qui sont tous hésitants, ne sachant pas ce que veulent exactement les Turcs et les autres acteurs.
Et ça, c'est pour Idlib. Et concernant la ville de Manbij, donc où étaient les forces kurdes, donc au nord-est d'Alep, il est question déjà dans certains journaux de patrouilles communes entre forces kurdes et les Russes. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que ça veut dire que les Américains ont là déjà effectué un retrait?
Les Américains avaient conclu un accord avec les Turcs par rapport à Manbij pour avoir un travail commun dans cette zone-là.
En mai dernier.
Pour les Turcs. Oui, exactement, puisque pour les Turcs, c'est une question extrêmement importante. C'est pas loin de la frontière. Ils parlaient de l'est de l'Euphrate comme étant une zone où ils ne voulaient pas voir les milices kurdes. Et puis avec le retrait américain qui a suivi des tensions aussi entre les Turcs et les Américains, puisque l'accord a été à plusieurs reprises reporté par Washington, on parle aujourd'hui d'une coopération entre Kurdes et Russes. Peut-être les Russes veulent montrer qu'ils sont les acteurs incontournables dans cette région-là comme dans d'autres régions de la Syrie, et qu'ils peuvent à la fois négocier avec les Kurdes, avec les Turcs, et évidemment ils sont les sponsors du régime. Donc ça peut être un message, mais pour le moment, il y a des informations qui disent que la police militaire russe qui se trouve dans la région a peut-être montré un peu plus sur les médias cette présence-là. bien qu'elle est temporaire et que avec Ankara, les négociations et les pourparlers sont toujours en cours.
Eh bien, écoutez, situation à suivre également. Vous l'avez mentionné, c'est très urgent, sporadique de l'État islamique tout le long de l'Euphrate à partir du sud, et puis peut-être à évoquer dans les prochaines semaines un front lié à la réintégration régionale dans le triangle irako-jordano-syrien. On en reparlera. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Ziad Majed, professeur à l'université américaine de Paris. On renverra votre livre aussi, Dans la tête de Bachar el-Assad, coécrit avec Farouk Mardambeh. Merci, bonne journée.